Grand pays de gastronomie. Oubliez la France et l'Italie. Direction le Liban.
Alors regardez, il y a les feuilles de vigne, il y a le baba ganoush, il y a le hummus, on a le labné.
Les mezef rouad, 63.
Plat.
C'est le foie de poulet et le jus de
grenadine.
Ça c'est le kebbe orfale.
Orfale, c'est un peu piquant.
Des oignons avec
c'est de l'oignon. Je dois goûter le taboulé libanais.
Le mezef, c'est libanais. Un tel nombre de plats qui représente l'amour que nous donnons à tous les peuples dans le monde.
Narguilé Erak.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans les marmites du Liban. Ce petit pays du Levant occupe les premières loges de l'actualité. La révolution populaire qui gronde depuis octobre 2019, la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août dernier. Le peuple libanais côtoie souvent la mort et pourtant, il garde un immense appétit de vie. C'est ce que l'on va voir et nous allons voir que sa cuisine généreuse, savoureuse et partageuse est devenue un formidable cri du cœur, notamment pour nos deux invités. Tout d'abord, Carla Rebetz, bonjour.
Bonjour.
Franco-libano-brésilienne, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et vous êtes à la tête de It's Time, avec un petit jeu de mots dans ce titre.
Oui, c'est écrit E-A-T-S, espace T-H-Y-M-E, jeu de mots sur le thym et le temps.
C'est ça, littéralement, ça veut dire mange thym, mais c'est aussi il est temps de, évidemment, et c'est une nouvelle échoppe libanaise que vous avez ouverte rue Coquillère, Paris 1er, et vous y proposez une certaine vision de la cuisine levantine, c'est ce qu'on va voir. On va voir que vous êtes aussi, Carla, très impliquée dans la reconstruction de votre pays. Alan Jeham, bonjour.
Bonjour.
Libanais et citoyen du monde, puisque vous avez vécu au Liberia, en Italie, aux États-Unis, et vous vivez une véritable success story à la française. Une étoile Michelin il y a 2 ans pour AG, ce sont les initiales de votre nom, et c'est votre table gastronomique de la rue Lauriston, Paris 16e. Alors une table assez française, pas franchement libanaise, mais vous osez renouer avec vos racines libanaises chez Casti, qui est le nouveau bistrot que vous avez ouvert, rue Saint-Martin, Paris 3e. Vous allez nous expliquer ce cooking out de la cuisine libanaise.
Voilà, bistronomie version libanaise.
Bistronomie version libanaise, et on y mange de sacrées choses, et notamment peut-être bien le meilleur houmous de France. Alan Jeham, on parlera également avec vous. Soujouk, Bastorma, Makanek, ce sont de délicieuses charcuteries orientales. Notre reportrice Pauline Boulet est allée rendre visite à Rafi et Edouard Toutoundjian. Ce sont deux frères d'origine libano-arménienne. Vous les connaissez bien, c'est même vous qui vous nous avez mis sur leur voie. Ils fabriquent ces charcuteries depuis plus de 40 ans à Saint-Denis. On est aux portes de Paris. Pour m'accompagner dans ce voyage, Elvira Masson et Arnaud Daguin, bonjour mes amis.
Bonjour à tous. Bonjour.
Ça va les enfants?
Ça va super, ouais.
Elvira, et toi en joie?
Je suis en joie, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez que le Liban, c'est l'autre pays de la glace et c'est assez réjouissant.
Ouais, il y a même une petite surprise à la clé.
Ouh
là là, ça va arriver, vous allez voir, c'est un sacré truc. Alors je pense que ça n'a pas de secret pour nos invités, mais nous on va s'en mettre jusque là, n'est-ce pas Arnaud?
Avec plaisir.
Alors?
Alors, un coup de flamme aujourd'hui, tiens, voilà. Et même peut-être un retour de flamme, faut le voir.
On va voir ça avec vous dans votre coup de lame. Retrouvez d'ores et déjà nos coups de cœur, nos recettes, les recettes de nos invités, le podcast de notre émission sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
On commence avec une surprise qui n'a pas grand-chose à voir avec le Liban, quoique... On est peut-être bien en Méditerranée. C'est un petit pain individuel que vous avez dans une assiette sous vos yeux. Un petit pain d'ailleurs dont on peut commencer par définir la forme.
Bah oui, c'est une forme en épi, c'est très joli. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un pain en épi. Il est très délicat celui-là.
Tout allongé, petit pain individuel. Alors il a quelque chose de particulier, une aromatique particulière. Mettez-y le nez, la bouche, les doigts.
Ça sent bon.
Vous avez le droit de dire des bêtises, hein. Il faut jeter à l'eau. Mmh. C'est une petite dégustation à l'aveugle.
Il y a une herbe ou une épice?
Ouais.
Romarin.
Ça sent un peu le romarin.
Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ça sent la Corse. Ça sent.
C'est ça?
Non, un peu non. Ça sent
romarin, sarriette, serpolière.
Un peu, ouais.
Pardon de vous le dire, mais mon voisin de droite, Arnaud Daguin, a dit quelque chose de
l'herbe du maquis,
de très intelligent. On va dire qu'il chauffe sévère.
Ah bon?
Est-ce que ça sent la Corse?
C'est ça? Bah, Corse, herbe Corse.
Il y a une partie de la bonne réponse, bravo Elvira.
Un sort de sarriette très légère.
Mais c'est un peu acidulé.
Marjolaine. On peut le dire
là,
que...
Là aussi, vous chauffez à l'âne. Vous m'avez dit marjolaine, on n'est pas loin.
Peut-être qu'il y a un mélange en Corse qui est quelques plantes séchées, qu'on peut l'appeler aussi zatar corse ou un autre mot.
Bon, il y a plein de bonnes réponses dans tout ce que j'ai entendu. On va dire que vous avez tous gagné. Bah, de quoi s'agit-il? Je suis allé chercher la réponse, en fait, sur les pentes de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement. C'est là que le napolitain Adriano Ferrano a ouvert Panevivo.
Ah, c'est lui.
Qu'il définit comme un laboratoire de panification engagé. Autrement dit une boulangerie, mais pas tout à fait comme les autres. Quel est donc, attention, résultat des jeux, la spécificité aromatique de ce petit pain?
C'est un pain qui est fabriqué à base de farine de blé dur de variété ancienne, Russello, sur un levain naturel et qui a l'âge de 132 ans, parce qu'on l'a récupéré dans une boulangerie de 6e génération des Pouilles. C'est la macchia, qui en corse veut dire maquis. Et c'est un pain qui marie la tradition des blés de la Sicile avec les arômes et les parfums du maquis corse. C'est un pain vraiment qui vous invite à prendre le maquis, à vous réapproprier de cette liberté d'un pain qui fait du bien. Et j'en ai eu l'idée parce que ma femme est d'origine bastiaise et je me suis marié avec elle à Rogliano, dans le Cap Corse, un lieu splendide aussi qui a enfanté ses arômes de myrte, d'immortel et de nepita, qui est donc une petite menthe, une mentuccia comme on dit en italien, qui va révéler un petit côté mentholé juste à la fin, un traître.
Voilà, nepita, qui est cette espèce de marjolaine mentholée typique du maquis corse, bah vous avez tous gagné. Macchia, qui veut dire en corse le maquis. Voilà, on n'est pas si loin des saveurs du Liban quand même,
et
des senteurs.
Qui donne une petite pointe de curry presque. Mentholé,
exactement, et vous avez raison Elvira, l'immortel va donner cette note un peu épice douce, un peu curry, tout à fait.
On est dans le saveur méditerranéen exactement. Et le Liban c'est une part de la bassin méditerranéen.
C'est très délicat, comme moi je n'aime pas les pains parfumés en général, mais là c'est fait avec un doigté, c'est vraiment très fin.
Ben, ça tombe bien, Arnaud Daguin. C'est bon. Vous aimez, Carla?
Bon. Ah oui, l'odeur est mentholée, mais le goût est plus subtil.
Ah, absolument.
Ah, j'aime beaucoup.
Le mortel, j'ai senti dans le nez, pas dans le goût, parce qu'on revient sur le goût qui est subtil, qui est très léger, et c'est très intéressant.
Très intéressant, et ce petit pain est en vente chez Panevivo, 49 rue de Chine, Paris 20e. À préciser aussi qu'Adriano Ferrano, boulanger mais aussi ancien journaliste et enseignant à l'école de journalisme de Sciences Po Paris, publiera le 21 octobre prochain « Je ne mangerai pas de ce pain-là » aux éditions du Rouergue, un essai sur le pain moderne et l'immense problème de santé publique qu'il représente. L'émission est réalisée par Laurent Thomas, avec Alix Barois, Nadia Chougui et Margot Page à la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale. Dans un instant, on salive au pays du cèdre.
Je les gris d'aimer. Je voudrais une femme. À tourner le ciel bleu. Bari, être heureux. Je voudrais voir le monde entier. On a ben hab, m'envoler. À tourner l'amour. L'amour nuit et jour. Je voudrais chanter, je voudrais l'écrire pour le moustache.
Tes yeux tristes. Wahadi, qui veut dire je suis seul, c'est ça en
seul,
arabe ?
Seul.
Seul. C'est un single extrait du nouvel album du regretté Rachid Taha, enregistré juste avant sa mort avec la chanteuse suissesse d'origine algérienne Flesh Love. Rachid Taha, très apprécié d'ailleurs et très écouté dans la communauté francophone du Liban.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Allège un peu tes yeux tristes des paroles de circonstance, évidemment, puisque dans l'histoire de ce jeune pays qu'est le Liban, le 4 août 2020 restera gravé dans les mémoires. Une énorme explosion a dévasté une grande partie de Beyrouth, faisant au moins 190 morts et plus de 6500 blessés. Alan Jeham et Carla Rebetz, vous avez été tous les deux plus ou moins directement touchés par ce drame. De nombreuses opérations de solidarité pour le Liban ont vu le jour. Et Carla Rebetz, j'aimerais qu'on revienne sur une action à la fois symbolique, sociale, culinaire, que vous avez menée, puisque vous avez remis sur pied un lieu que tous les Beyrouthins connaissent, Fourne Samir.
Fourne, c'est la boulangerie de Samir, et Fourne, c'est l'endroit où on prépare les manouchés au Liban.
Les manouchés, on va en parler, oui, de ces galettes de pain.
La manouché ou les manaïch, où on parlera. Et Fourne Samir, c'est vraiment, depuis 1990, c'est... je dirais un grand kiosque au dos du port où les employés du port, les taximans, la personne qui revient de boîte de nuit, les membres du service de renseignement, de la marine, se retrouvent là-bas.
Vraiment tout le monde.
Tout le monde, parce que c'est vraiment dans un enfoncement, mais un endroit très connu. Ils préparent à peu près 500 manouchés entre 6h du matin et 14h chaque jour. Et c'est connu pour être... très, très bon.
Très, très bon.
Et il y en a d'autres sur les rues, et donc c'est plus facile d'arrêter dans une rue. Mais là, on fait 2 minutes de plus, on se retrouve chez Fourne Samir, et ça n'arrête pas.
Alors évidemment, cette espèce de bicoque située directement sur le port a été littéralement soufflée.
Elle a été littéralement soufflée, mais comme tout au Liban, littéralement, c'est pas comme on imagine un film de Mad Max. C'est de la terre, c'est vraiment encore, il y a des murs, il n'y a pas le plafond, inutilisable. Heureusement pour lui et ses employés, c'est qu'ils ferment à 15h, entre 15 et 16h. L'explosion s'est passée à 18h. Donc lui, il était de retour chez lui. Et moi, je l'avais appelé l'après-midi, à 18h, 19h, c'était 20h, heure de Beyrouth, en lui disant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien, la famille, les employés? Il me dit, tout va bien, je ne sais rien sur mon Fourne. Beaucoup de mes clients et tout ne répondent pas, c'est une catastrophe. Je dis, alors, quand tu arrives demain matin, tu m'appelles. Et le lendemain, il m'appelle et il me dit, voilà, tout est cassé, tout est détruit. Il y a des gens qui passent, mais c'est pas encore, c'était trop tôt parce qu'on comptait encore les blessés. On voulait retrouver les survivants. Et là, je lui dis que mes filles, moi-même, mes collaborateurs dans It's Time et quelques amis, on va faire de sorte qu'ils se remettent sur pied. Mais je dis, il y a une chose, Samir. La seule chose que tu dois faire, c'est... dès que tu te remets sur pied, mais très rapidement, parce qu'on va pas rentrer dans « je suis victime de tout ça », on va pas attendre l'aide de l'État, tu vas donner à des associations des manouches. Et c'est ce qu'il a fait. Il a reçu l'argent en 9 jours, en 14 jours, il avait déjà commencé à travailler, mais on n'a pas... c'est-à-dire, il a réarrangé le four, maintenant on lui amène un nouveau réfrigérateur. Il y a un deuxième qui a été réparé, mais qu'on va après changer. La vitrine n'est pas toute là, la petite tenture devant n'est pas là.
Et Fourne Samir, a rallumé son four.
Il a rallumé son four.
Et fournit à nouveau des manouchés.
Tout à fait. Et il offre à des associations chaque jour 20 manouchés gratuites.
Un exemple parmi beaucoup d'autres d'actions de solidarité qui ont eu lieu dans le milieu de la gastronomie, Elvira.
Oui, il y a notamment une initiative à laquelle vous avez participé d'ailleurs, Carla, qui s'appelle Ask Chefs Anything. Demandez ce que vous voulez au chef. C'est un collectif qui s'est à l'origine créé à New York au mois d'avril dernier, dans le but de lever des fonds pour soutenir les travailleurs immigrés aux États-Unis, population particulièrement touchée par la fermeture des restaurants. Ça a très bien fonctionné au point de s'étendre sur tout le territoire américain. Et cette fois-ci, Ask Chefs Anything s'est, entre guillemets, intéressé au sort de Beyrouth et des Beyrouthins. Le principe en était de fédérer des chefs du monde entier, mais aussi des personnalités liées plus ou moins directement au monde de la cuisine, qui mettent chacun aux enchères une invitation à passer 30 minutes de leur temps avec eux via une visioconférence, afin que quiconque du public qui souhaite enchérir puisse poser toutes les questions qu'il souhaite sur le métier de cuisinier, sur la passion de la cuisine, la vie, l'œuvre des uns et des autres. Les enchères se sont clôturées il y a une semaine. L'opération a été un succès. 35 000 dollars ont été collectés. Une centaine de personnalités, chefs et autres du monde entier, de nombreux chefs israéliens d'ailleurs, ont participé à l'opération. Les enchères sont montées jusqu'à 6 200 dollars pour passer 30 minutes avec le restaurateur américain Tom Colicchio.
Qui ça?
Ça m'étonne pas. Pardon. Il est formidable. Je l'ai eu comme stagiaire avant, figurez-vous. Si.
Non.
Bah si, bah
et oui, car
ça ne vous rajeunit pas.
Non, pas trop.
Car avant de coup de lamé au micro dont on va déguster, il a une grande vie en Odéguin, dont celle de cuisinier étoilé.
Absolument.
Évidemment.
Et ces 35 000 dollars collectés vont être reversés intégralement à Beit El Baraka, une ONG laïque et apolitique qui se concentre sur la reconstruction des milliers de maisons détruites à Beyrouth, la réhabilitation de plusieurs centaines de commerces, le soutien médical, psychologique, alimentaire. Une partie de ces fonds servira à acheter des repas préparés par la nouvelle cuisine solidaire de Kamal Mouzawak. Kamal Mouzawak, qu'on a reçu ici, activiste de la cuisine, fondateur des marchés de producteurs et restaurants communautaires Taolet et Souk El Tayeb, dont les lieux ont été non pas complètement détruits, mais comme vous le disiez Carla, très abîmés, avec encore quand même des fourneaux en état de fonctionner. Avec l'aide de l'ONG World Central Kitchen, fondée par le chef hispano-américain José Andrés, qui a débarqué à Beyrouth 24 heures ou 48 heures après l'explosion, il a pu se remettre au travail. Et avec des bénévoles, ses cuisinières, il a réussi à envoyer jusqu'à 1500 repas par jour dans les jours qui ont suivi le drame. Le 1er octobre, donc moins de deux mois après le drame, grâce en partie à une campagne de crowdfunding international, il rouvre un nouveau lieu où seront réunis marchés, épiceries, cuisines communautaires et où sont déjà envoyés tous les jours 1000 repas pour les plus fragiles.
Et tout ça à Beyrouth.
À Beyrouth, en deux mois.
Piloté par notre ami Kamal Mouzawak. Merci beaucoup Elvira pour ces infos. Et à noter enfin, toujours pour évoquer la solidarité, que France Inter organise le 1er octobre une journée qui s'intitule « Unis pour le Liban » avec des émissions spéciales pendant toute la journée et un concert-événement au profit de la Croix-Rouge en partenariat avec la chaîne de télévision France 2, animé par Nagui et Ibrahim Malouf, que vous connaissez forcément.
Ah ouais, magnifique.
Bernard Lavillier, Clara Luciani, Mathieu Chédid, dont on connaît les origines libanaises, entre autres artistes, participeront à cet événement. On évoquait les manouchés, ou je sais pas si je prononce bien, de Fourne Samir, qui vient de réouvrir grâce à Carla sur le port de Beyrouth. Alan Jam, expliquez-nous un peu cette galette de pain. Comment il faudrait la définir pour un Français qui ne l'aurait jamais vue ou croquée?
Voilà, le manouché, c'est vraiment le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Moi, j'ai grandi sur le zaatar et les manouchés, et maintenant, je peux pas manger des zaatars tellement j'ai mangé quand j'étais petit. Le pizza, c'est gros. Je trouve que c'est pas vraiment la bonne terme.
C'est une galette plate, les Anglais diraient un flatbread.
Et moi, je me souviens bien quand j'étais gamin pendant la guerre, on n'avait pas de sous, et on ramenait le zaatar et les huiles d'olive avec nous pour aller juste acheter les pains chez le boulanger, et ça coûte pas trop cher. Mm-hmm. Et comme ça, j'ai préparé chez le boulanger chaque dimanche matin à peu près 25-30 galettes.
Ah, magnifique. Alors, on est obligé d'ouvrir une parenthèse là, mais il va y avoir pas mal de parenthèses dans cette émission parce que la cuisine libanaise est assez foisonnante. De manouché, on fait un petit ricochet vers zaatar. Une définition, Carla, du zaatar?
Ben, zaatar, c'est un mix, c'est un mélange de thym, de sésame, de sumac et un peu de sel.
Oui.
Et tout ça, quand on a les bons produits et cueillis à la main, je dirais agriculture raisonnée, mixé selon un dosage. Et c'est ça qui fait le secret, la force d'une recette, c'est ce fameux mix. On a toute la garrigue, les montagnes libanaises.
C'est ça. Et le zaatar, alors évidemment, il n'est pas qu'exclusivement libanais, il est levantin, on va dire. Ça veut dire que le zaatar...
Il est est-méditerranéen. Ça veut dire...
Mais on le connaît en Syrie.
On le connaît en Syrie, on le connaît en Jordanie, on le connaît dans Israël, Palestine.
Quand on met le doigt dedans, parce que zaatar, c'est Z2A, T-A-R.
Zaatar.
Zaatar, pardon, désolé. Je vais essayer de faire des points de
la prononciation. Le zaatar, c'est les deux lettres qu'on ne peut pas prononcer et qu'on vous met aujourd'hui sur le plateau.
C'est ça.
Et on peut ajouter beaucoup de plantes sauvages dans le zaatar, comme l'hyssope, comme le marjolaine, l'origan, comme romarin. Et tout ça, on l'appelle au Liban le thym.
Ce n'est pas réduit qu'au thym, évidemment, puisque vous dites que c'est un mix de plein d'ingrédients et de plantes différentes.
Oula, on va parler des zaatars libanais. Je dois participer là, parce que il y a une chose. Il y a le zaatar libanais qu'on connaît, parce que nous, on est un peu puristes. Quand on part vers la Syrie, et là, ils ont une purée de pois chiches qu'ils ajoutent sur du zaatar, donc ça donne un autre goût complet. Mm-hmm. Et si on part en Jordanie, et on part là-bas, mm-hmm. ils font un mix de 2-3 thyms qu'ils mélangent ensemble, et après ils mettent des fois de la coriandre ou du cumin, et donc ça fait comme un festival d'herbes et d'épices qui fait beaucoup la différence. Mais à la base, c'est le zaatar.
Donc il y a des compositions et des usages différents. Et bien justement, on a deux usages sous les yeux. Vous êtes chacun zaatar aujourd'hui, puisqu'on a une manouchée ou un manouché au zaatar pour Carla. Une manouchée. Et on a cette brioche, vous en dites un mot, Elvira?
Oui, bah je l'ai engloutie en même pas 4 secondes. C'est une brioche feuilletée, comme on en trouve classiquement aussi en France, quoi. C'est mais simplement, elle est parfumée au zaatar. Oh. Le feuilletage, il est fait à l'huile d'olive ou il est fait au beurre, du coup, parce que c'est incroyable.
C'est une base de brioche feuilletée, beurre. Ça vient un peu aussi de l'idée qu'au Liban, on mange le croissant au zaatar. Et moi, quand je suis arrivé en 99 à Paris avec mon sac à dos, je suis allé directement dans une boulangerie à Cambronne.
Vous avez demandé un croissant aux zaatar ?
J'ai demandé un croissant aux zaatar et il m'a regardé le monsieur comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, au beurre ? Je dis non, zaatar, zaatar, monsieur. Moi, je me fais envoyer un peu balader. Et,
là, ça, c'est le digne héritier du croissant aux zaatar que vous n'avez pas eu à Paris.
Remarquable. Remarquable. La grande gastronomie française croise un ingrédient de base de la cuisine libanaise. Ça donne cette chose prodigieuse.
Mélange, c'est ça le travail que j'ai en train de faire énormément depuis 2-3 ans, métisser tous les savoir-faire français avec les produits libanais.
Absolument.
Le zaatar a besoin de gras.
Le zaatar
s'exprime avec beaucoup d'huile d'olive et là, en l'occurrence, beaucoup de beurre.
Mais alors justement, il y a également du zaatar sur votre manouché, car là, on peut dire que dans votre adresse parisienne toute nouvelle, qui attire énormément de gourmets et beaucoup de membres de la communauté libanaise française aussi, It's Time, 44 rue Coquillère, Paris 1er, la manouchée est un peu votre porte-étendard. On dirait presque, vous n'hésitez pas à la surnommer pizza libanaise.
Ah non, moi je l'appelle la galette. Je peux l'appeler pizza galette parce qu'on la présente étalée pour que les gens voient qu'est-ce qu'il y a dans cette galette.
Elle fait la taille d'une pizza en plus.
Elle fait la taille d'une pizza, un peu plus petite, à peu près 26 cm. Et le fait qu'on puisse voir tous les ingrédients parce qu'on les travaille. Donc ce n'est pas juste l'enfournement dans nos deux fours qui sont ouverts toute la journée et qui sont en pleine puissance. Et nous, c'est manouché à longueur de journée et pas seulement au zaatar, pas seulement au fromage. On met de la viande de kefta, on fait un mix de falafel. Et là, on se fait plaisir parce qu'on reconnaît, les Libanais viennent maintenant de partout, de Paris et de la banlieue, pour prendre une manouchée zaatar, pour prendre un kefta, pour prendre un fromage, pour prendre l'épinard, et ils disent ah. Et on a l'impression comme si ils s'assoient et là ils sont de nouveau dans le pays, ils ont les goûts du pays, ils ont les mémoires du pays, et ça c'est j'adore.
Et en même temps, vous proposez, Carla, chez It's Time, non pas une vision traditionnaliste et puriste de la cuisine libanaise, mais au contraire, des jumelages, vous établissez des ponts en Méditerranée, dans vos recettes entre le Liban et l'Italie. Oui. Y a aussi certains Libanais qui réagissent et qui vous reprochent justement d'être un peu trop ouverte d'esprit.
Ben, j'adore être ouverte d'esprit et j'adore être la position contraire de toutes ces personnes. On va s'ouvrir au monde, on est des Libanais partout dans le monde, on est des Libanais qui ont été métissés dans et croisés sur plein de continents et on a des envies de les partager. Parce que je vais juste rebondir, on a des croissants au zaatar faits avec Frédéric Lalosse, le meilleur ouvrier de France.
Absolument.
Donc on a ce côté beurré et Alain, tu es le bienvenu. Et on a par exemple la zaatar sur laquelle on met une burrata, de la roquette, des tomates d'Aterini, des olives, une très bonne huile d'olive. Parce que c'est vraiment, c'est Napoli, Beyrouth, deux ports, la Méditerranée qui se rencontrent et qui ont envie d'être ensemble. Et ça va continuer comme ça parce qu'on va faire des rencontres, on va ouvrir la manouchée à d'autres pays, à d'autres idées, à de la créativité. Et le but, c'est juste qu'elle doit être dans un four, qu'elle doit être fraîche, qu'elle doit être cuite à la minute, et pour vous.
Et vous faites un très beau cadeau à nos auditeurs, Carla Rebetz, sur le site internet de France Inter, à la page On va déguster, on retrouve la recette de votre pâte à manoucher qui est tout à fait praticable à la maison.
Oui, de la farine bio, un peu de levure.
Ah, vous avez même apporté la pâte.
Un peu d'huile d'olive, du sel. Oui, j'en peux en manger. Mmh. Du sel,
moi aussi,
du sucre.
La pâte crue.
Et elle est faisable à la maison, je l'ai essayé, si c'est réussi avec moi, donc c'est faisable pour tout le monde.
Dans un instant, nous allons évoquer la démarche singulière également de Alain Jeham concernant ses racines libanaises, sa cuisine légèrement revisitée, même si vous avez décidé aussi, on va le voir, de reprendre certaines recettes au pied de la lettre. Mais pour l'heure, je vous propose le coup de lame d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Quand avec nos enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides, au milieu des tempêtes. Bon, merci Victor pour le coup de main au démarrage. Au siècle légendaire où nous étions chasseurs, nous courions la planète et après le gibier selon les saisons, les migrations, les glaciations. Ce n'était pas facile. On ne vivait pas vieux, mais toujours au grand air et on était musclés. La tambouille n'était pas bien copieuse, mais elle était saine et surtout très variée. On se chamaillait bien un poil pour des histoires de territoire, mais on avait suffisamment à faire pour occuper pépère notre niche écologique. On vivait sportivement, sans trop chercher de noises aux voisins. Quand nous eûmes boulotté tous les gros animaux, quand nous eûmes, par la grâce de notre fécondité débridée, sorti du jeu l'entièreté de nos cousins homo, alors nous autres sapiens, il nous fallut produire notre pitance pour continuer d'exister. Naissance de l'agriculture. Or, produire, c'est rester. Rester, c'est stocker. Stocker, c'est bâtir. Bâtir, c'est défendre. Naissance de la guerre. La guerre contre le végétal, d'abord, pour faire pousser uniquement les plantes voulues et éradiquer sans merci le reste des herbes devenues, j'ouvre grand les guillemets, mauvaises. La guerre ensuite contre l'animal, désormais nuisible, ravageur, car profitant des déséquilibres par nous créer, ben oui, faire pousser la même plante et pas les autres, c'est nourrir la même bestiole et pas les autres. La guerre enfin contre nos frères humains, pour défendre, conquérir, s'approprier les terres cultivées, les richesses accumulées, les troupeaux de rocs et les fans velus. Notre ingéniosité à fabriquer des armes de chasse trouve dans la guerre un prolongement tout à fait logique et infini. À la course à l'armement, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Eh ben, c'est pareil en agriculture. Pour asservir le vivant et dominer la nature, nous avons, au cours des millénaires, fait preuve d'un génie sans limite. Permettez-moi de vous rappeler que depuis le 19e siècle, les fertilisants et les explosifs, c'est pareil. C'est exactement le même produit qui a explosé les rendements agricoles et les poilus au chemin des dames. Les ammonitrates, ou comment court-circuiter la fertilité par la fertilisation recyclée de la poudre à canon en booster de végétal. Les engrais et les bombes, ces bonnets blancs et blancs bonnets, ont récemment constaté Béroutines et Béroutins dans les décombres fumants de leurs porcs. Cet engrais-là est le cœur de tout un système agricole qui ne pourrait exister sans lui. Il est le symbole absolu de ce qui a fait de nous les ennemis de la terre. Alors, à défaut de réconcilier les hommes, commençons par faire une agriculture qui nous réconcilie avec la nature. Cette agriculture foisonnante où il n'y a pas plus d'herbes mauvaises que d'animaux nuisibles. Eh bien, cette agriculture, elle arrive. Saluons les progrès de ces agriculteurs pionniers qui produisent beaucoup et bien en travaillant main dans la main avec les vers de terre. Oui, bon d'accord, c'est pas facile. Mais très bientôt, dans nos campagnes et pourquoi pas dans nos villes, la seule explosion que nous aurons à constater, ce sera celle du vivant.
Merci, ça fait réfléchir, hein, ce billet nitrate Bravo. D'ammonium depuis le champ de guerre de la Grande Guerre jusqu'au champ de l'agriculture moderne.
Oui,
absolument. Merci beaucoup, Arnaud Daguin. Leçon de Houmous dans un instant avec Alain Jeham. Juste après, Meryem Abouloufa, chanteuse marocaine avec le titre Welcome Back to Me. Belle journée sur France Inter.
يمشي على حاله أترك جميع الأقوال وسخى لما قالوا لمها فلا تعش
Arabe jusqu'au bout de ses ongles laqués de rouge et de ses casseroles rutilantes comme soleil d'août, notre maîtresse se maquille d'une main et roule une feuille de vigne de l'autre, corrige un poème tout en sarclant la terre autour d'un plant de menthe nécessaire pour son taboulé. Alors c'est des börek, on les découpe en lamelles, on met dedans un mélange de fromage, de feta avec un œuf et de l'origan, et puis on les fait revenir dans l'huile très chaude, très vite, parce que ça crame très très vite. Voilà, c'est un plat très qu'aiment beaucoup mes petits-enfants, et très facile à manger, et c'est bon avec le taboulé, avec la salade d'aubergine, c'est une belle entrée.
J'ai le sentiment, Carla Rebetz, que vous avez reconnu cette voix.
C'est la poétesse Vénus Kourigata, grande poétesse
franco-libanaise,
qui vit à Paris et qui est, je dirais, exceptionnelle.
Hommage à la cuisine libanaise dans On va déguster en ce dimanche avec Carla Rebetz, fondatrice de It's Time, on va pas dire cantine, snack comme on dit, restaurant.
Ben, je dirais toute la journée, un lieu de partage et de nourriture à la cuisine est devant vous.
C'est ça, près de la Place des Victoires, Paris 1er, beaucoup de succès pour cette adresse qui sert à la fois des mezzés et des manouchés qu'on a dégustés. Vous avez, je vous le rappelle, la recette de pâte à manouchés sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et Alain Géham, chef étoilé, qui porte d'ailleurs son tablier avec son macaron Michelin fièrement arboré sur le poitrail. Une étoile Michelin chez AG, restaurant gastronomique extraordinaire que vous connaissez d'ailleurs, Arnaud Daguin, je crois.
Absolument.
Que vous validez, je crois.
Absolument.
Même si vous y pratiquez, on peut dire, une gastronomie, alors avec ses influences évidemment, mais plutôt française.
En fait, moi, toute ma cuisine, elle est tournée vers vraiment mon histoire, avec mon rêve d'enfance d'être un cuisinier à Paris. Et je suis venu vraiment en France en 99 avec un sac à dos, avec un seul but, c'est d'apprendre comment faire la cuisine française, où je revisite tous les plats libanais avec toutes les techniques de la cuisine française, avec le savoir-faire, avec la texture, avec le goût subtilité. Et c'est vrai, mon carrière, il a pris 20aine d'années pour y arriver à avoir cette étoile. Je travaille toujours, j'apprends tous les jours. Je suis un cuisinier qui, chaque matin, quand je me réveille, je dis il faut que je fasse mieux qu'hier. Je continue à vivre un rêve extraordinaire.
D'autant qu'on peut considérer que vous êtes autodidacte.
Je suis pas de formation.
Il n'y a pas eu de grand chef français dans votre parcours. Vous avez davantage appris la cuisine française dans les livres.
Dans les livres et les chefs, j'ai vu toujours dans le télé, dans les magazines. C'est une grande passion. Et je me rends compte de cette passion le jour qu'on a fermé le restaurant le 14 mars. Mais l'établissement, là, j'étais un peu perdu. J'ai dit, non, mais en fait, c'était ma vie, la cuisine. Quand j'ai eu l'étoile en 2018, j'ai eu l'étoile pas avec des truffes et des caviar, j'ai eu l'étoile avec le mélasse de grenade, avec le zaatar. Je suis ouvert le bistrot Casti en 17 février. Casti, ça veut dire que c'est mon histoire. ou juste se rendre hommage à la cuisine libanaise, dire merci à maman, qui est elle qui m'a donné l'envie d'être un chef. C'est elle, c'était mon première école, mon premier chef, qu'elle m'a appris à aimer les gens, à partager avec eux. Elle m'a transmis beaucoup d'amour à cuisiner avec d'émotion. Et surtout, dire merci aussi à la France et Paris, que c'est mon devoir aujourd'hui, autant libanais, à montrer que la cuisine libanaise, c'est une cuisine qui est beaucoup, beaucoup de diversité. C'est une cuisine qui est basée sur les produits de saison. Oui, chez moi, il n'y a pas de taboulé de octobre jusqu'à juin. J'ai fait le taboulé uniquement l'été, quand la saison des tomates. Avec toutes les choses qu'elle m'a données, la France, je suis en train de le rendre, parce que c'est le seul pays qui m'a ouvert les bras, elle m'a accueilli, j'ai grandi dedans. Moi, je suis quelqu'un, je suis l'enfance de la guerre. Je suis né en 75, je suis arrivé à Tripoli, j'ai vécu 15 ans de guerre civile. J'ai quitté Liban un petit gamin en 99. Et là, 20 ans après, je suis un chef étoilé. C'est le seul chef d'origine libanaise étoilé. C'est une grande fierté. Ça donne beaucoup d'espoir à tous les jeunes libanais, à tous les jeunes cuisiniers qu'ils peuvent y arriver. Moi, je suis arrivé, eux, ils peuvent arriver aussi.
Destin spectaculaire. Ah, vous avez carrément les larmes aux yeux. C'est vrai que c'est des témoignages qui émeuvent parce que vous n'êtes parti de rien. Vous avez gravi tous les échelons tout seul de la gastronomie française. Vous y êtes fait une place considérable. Je connais suffisamment votre parcours depuis le début pour savoir que chez vous, l'identité libanaise, culinairement parlant, était un peu enfouie, un peu honteuse, un peu cachée. Vous vouliez jouer en quelque sorte, et c'est pas du tout péjoratif, au chef français. Il y avait un peu de zaatar, comme vous dites, un peu de mélasse de grenade, quelques condiments levantins, mais vous avez tardé quand même à révéler vos racines libanaises. Moi, j'hésitais pas à vous dire, mais allez-y, lancez-vous dans un bistrot, faites-nous un houmous, faites-nous un moutabal.
Exactement, c'était une leçon en 2015, je pense, c'était un échange ensemble. Et c'est vrai, j'ai caché derrière le produit qu'on l'appelle HIT, qui ça marche très bien. Burrata, yuzu, produit japonais, tous les chefs, ils l'utilisent. Le manque de confiance, j'assume. Je n'ai pas assumé mon histoire, je n'ai pas raconté mon vraie histoire. Ça a pris 18 ans pour dire maintenant c'est bon, c'est mon histoire. Je suis dormi dans la rue il y a 17 ans, 18 ans. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'étais plongeur, mais aujourd'hui j'ai le droit et il y a ma place parmi tous les grands chefs. Il y a eu le déclic.
Vous avez attendu 20 ans, c'est ça qui est incroyable.
20 ans,
et dans ce fameux bistrot qui s'appelle Casti, on a compris que ça signifiait mon histoire. On est dans le 3e arrondissement de Paris, le Haut Marais. Bah, y a un truc qui nous a carrément tamponné le palais.
Et on se dit que l'attente valait le coup, du coup.
Ça incroyable. Valait le coup, c'est ce que vous nous avez apporté là, c'est-à-dire ce houmous de l'espace.
Elia. C'est qu'à la fois, je regoute pour être sûr, à la fois la texture est insensée. C'est-à-dire que c'est velouté comme un yaourt brassé ou comme un labné. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est du velours. C'est très très finement mixé. À la fois, vous y avez mis quelques morceaux de, il y a un petit peu de pois chiche entier qui donne un contraste de texture. Et puis, il y a cet équilibre absolument parfait entre le gras, une légère acidité du citron ou de je ne sais pas ce que vous mettez dedans, légèrement. Et puis le tahine, la purée de sésame qui est un peu présente mais pas trop, qui vient tapisser un peu le fond de la bouche. C'est presque un peu umami au fond de la bouche, ça serre un peu l'arrière des mâchoires.
C'est beau quand elle parle, Elvira, non ?
Oui, pas mal, pas mal.
La cuisine libanaise, c'est une cuisine d'expérience. Tout d'abord, c'est une cuisine des mamans, c'est une cuisine des femmes. Aujourd'hui, la fête qu'on vit en France, pour moi, la meilleure cuisine au monde, c'est la cuisine française, avec toute la richesse de technique et savoir-faire.
Il ne veut pas nous lâcher la recette,
Alain Djam, ouais, on va revenir à votre houmous. Non, non, mais votre discours est tout à fait émouvant. Mais là, on va être très terre à terre sur la recette du houmous, s'il vous plaît. Vous l'avez goûté, Carla, ou pas ?
Ah oui, oui, j'ai été déjà chez Casti.
Alors ?
Et c'est excellent. Je peux rien dire, j'adore. Et là, maintenant que vous parlez, je profite pour terminer mon assiette. Alors, ça veut tout dire.
Attendez, je suis arrivé chez vous, je vous ai mis le pistolet sur la tempe. Je vous ai dit, tu files la recette très très vite, s'il te plaît.
Exactement.
Je la veux direct. Non mais, bon.
Hummus.
Alors, allez-y. Évidemment, c'est les étapes dans leur grande ligne, puisque la recette dans son intégralité, elle n'est pas si compliquée, et sur notre site internet.
Le hummus, il ne faut pas le basculer, il faut laisser le temps. Tremper le pois chiche à la veille avec une cuillère de bicarbonate à café. Il faut ensuite le lendemain le laver. Recommencer aussi de cuisson qui est très lent, très douce. Il ne faut jamais mettre le feu à fond. Vraiment, il faut laisser mijoter sur un feu doux. Voir le pois chiche, il est un peu crispé. On le détend avec le bicarbonate. On le fait un bain chaud pendant 3 heures. Là, il dégonfle. Et ensuite, on l'essaye maximum sur l'eau, le mixer directement à chaud.
Il faut le mixer à chaud, c'est important?
C'est très important. Moi, c'est ça, mes méthodes que j'ai fait. J'ai mixé à chaud et ensuite, je le débarrasse et je laisse tranquille jusqu'à le lendemain.
Ah ouais.
C'est comme en train de faire un jus de pigeon vraiment comme il faut. Il ne faut 48 heures pour le faire. Et là, je pars pour un hummus de travail pendant 48 heures pour sortir cet hummus qui est crumé. Le lendemain, je recommence, bien sûr.
Pardon, vous le laissez reposer au réfrigérateur?
Oui, exactement. Je laisse toute la nuit et le lendemain, je commence à travailler avec la crème des sésames, avec le citron. Aujourd'hui, la grosse débat, c'est l'ail. Est-ce qu'au Liban, on met de l'ail? On a l'habitude. On a grandi avec de l'ail, comme dans tous les pays en Pakistan, en Inde, on grandit avec le piment. L'ail, je ne mets pas dans mon hummus. Je laisse vraiment le star de cet hummus, c'est le pois chiche. Et comme on a dit, le pois chiche, il aime bien le gras. À la fin, un petit filet d'huile d'arachide pour donner cette texture qui est crémeuse. Et ça, c'est l'astuce de chef.
Génial. Et là, on obtient cette texture soyeuse, veloutée, absolument incroyable. Et ce bon goût pur de pois chiche, hein, avec cette douceur.
Formidable.
Arnaud, c'est validé.
Formidable, oui, oui. Ben, je l'avais goûté.
Il adore
j'étais
les légumineuses.
Là au premier service.
Exactement.
Ah oui. Donc le houmous, il s'en est mis jusque-là. Merci pour cette très belle leçon. Sur la carte de Castille, il y a un autre mot magique qui plaît beaucoup, j'en suis sûr d'ailleurs, à Elvira, qui collectionne, comme vous le savez peut-être, les saucisses du monde entier.
Sacré Elvira.
C'est la Macanac.
Macanac.
Elvira, vous savez forcément ce que c'est.
Je connais les saucisses Macanac, bien sûr. Ouais.
Vous nous expliquez ce que c'est, Alan?
Macanac, c'est, il y a deux versions à faire le Macanac. On peut aller sur le viande d'agneau 100%. On peut mélanger la viande d'agneau et le bœuf. Il y a pas de porc dedans. Pignon de pain et mélange des épices. C'est ça, vraiment, tout ça joue sur les épices. Et ces épices-là, on peut le mettre dans n'importe quelle autre viande. On sent le Macanac. C'est le travail que j'ai fait dans mon restaurant étoilé à l'Ingéam. Je prends les épices du Macanac, les épices de Sejoc pour faire du jus de poisson, pour faire du jus de viande, pour aromatiser d'autres produits.
Alors n'en dites pas trop, Alan, parce qu'on a déniché grâce à vous, on va aller les voir justement, la Mecque de la Macanac à Saint-Denis, dans le 9-3. Deux frères libano-arméniens, Rafi et Edouard Tutunjian, fabriquent des charcuteries libanaises et fournissent depuis plusieurs décennies environ 500 épiceries, commerces, restaurants orientaux dans toute la France. Notre reportrice Pauline Boulet est allée à leur rencontre.
Allez, je vous suis.
Si vous voulez vous habiller.
Ok.
Le bleu, c'est pour les chaussures. Et ça, c'est une blouse entière, de haut jusqu'à bas, jusqu'à même les cheveux.
Bon, on est équipé des pieds à la tête.
Ici, c'est là où on lave tous les matériels. Là-bas, c'est là où je prépare tous les épices. Il y a plein de cuisiniers qui ont essayé d'imiter ma recette. Ils n'arrivent pas.
On rentre dans le labo. Bonjour. Donc tout se fait ici, c'est-à-dire vous produisez donc des Macanac.
Macanac, sujouk et pastelma. Trois articles, je n'en ai pas d'autres. C'est que de la viande. Les basse-côtes et les poitrines d'agneau, c'est pour faire les Macanac. Et les basse-côtes tout seul, viande de bœuf uniquement, pour faire le sujouk. C'est de la viande arrivée jour par jour. Moi, je n'achète pas de chute, j'achète de la viande. Voilà.
C'est-à-dire que vous prenez le temps, là, il y a un employé qui coupe la viande, voilà. Vous allez ensuite la hacher, ensuite mettre vos propres mélanges d'épices.
Le mélangeur, c'est des produits industriels, sauf que je suis artisan. C'est travailler toujours à la main, depuis 40 ans. J'ai commencé manuellement, j'ai porté des sacs pour livrer, et après acheter un camion, acheter un jeu, voilà, j'ai agrandi petit à petit jusqu'à arriver là.
On va s'installer dans la petite cour intérieure. C'est comme un petit havre de paix dans Saint-Denis. Qu'est-ce qui vous a amené à produire donc des spécialités à base de viande libanaise?
Mon grand-père était chef cuisinier dans des familles honorables à l'époque. Et depuis mon jeune âge, j'ai travaillé avec lui dans la cuisine. Alors j'aimais la cuisine.
C'était où exactement?
Au Liban.
Et vous êtes arrivé en France à quel moment alors?
Je suis arrivé à cause de la guerre et parce que les écoles s'étaient fermées, il fallait que je continue mes études. J'étais un artiste peintre au départ, mais finalement la vie elle veut que je gagne de l'argent. J'ai travaillé dans une épicerie.
Si je peux remettre les choses dans les contextes, quand il a commencé dans les années 80, il a commencé à farcir les saucisses à la main avec un lanton noir.
Oui.
Il faisait kilo par kilo, il faisait goûter aux clients, etc. Et c'est là qu'il a commencé, et vu le succès, hop.
Au départ, j'ai ouvert une boutique, et avec la boutique, j'ai agrandi pour faire mon business.
Et aujourd'hui, vous avez plus de boutique.
J'ai mes neveux qui travaillent dans les marchés, qui distribuent mes produits.
Alors, sans me donner la recette précise, parce que j'ai bien compris que je ne l'aurais pas, est-ce que vous voulez bien me donner quand même les ingrédients principaux du macanek ?
Les macanek, c'est coriandre, poivre, cumin. J'ai rajouté quelques parfums personnels que mon grand-père me disait. Ça change tout. Et ça reste toujours mon secret.
Comment est-ce que ça se mange ?
La meilleure façon, c'est de griller, c'est une poêle ou barbecue. Mais en servant, il faut mettre une zeste de citron. Ça donnera un goût relevé au truc.
Ce que j'aurais voulu que tu dises, c'est que c'est grillé, mais sans apport de matière grasse.
Ah oui, c'est tout le macanek. Il ne faut pas mettre de matière grasse. Il y en a pas mal de cuisiniers, j'ai vu. Il y a un jour, il me dit, comment tu fais ? Moi, je n'arrive pas à faire la même chose que toi. Quand je mange chez toi, c'est différent que chez moi. J'ai dit, comment tu le fais ? J'ai regardé, il a mis l'huile comme ça. J'ai dit, mais non. Et en plus, c'est même pas de l'huile fraîche qu'il a mis. Il utilise l'huile qui se sert dans la cuisine avec les frites et des choses. J'ai dit, mais attendez, retirez tout ça et laissez-moi faire. J'ai fait griller les saucisses. Et depuis, il m'a dit, ça y est, c'est bon.
On va l'appeler Echebes, mon frère.
Non, mais il y a des chefs cuisiniers qui se disent qu'ils connaissent le métier, qu'ils font n'importe quoi. Mais moi, j'ai l'esprit tranquille.
Les charcuteries libanaises des frères Tutunjian, à retrouver évidemment à la table de Casti, votre bistrot, hein, Alain Djam.
C'est une table qui est très décontractée et on peut manger plein de liberté, le midi ou le soir et le dimanche, surtout le brunch. Un grand buffet à la libanaise, qu'il y a tout dedans sur la table et on se sert.
Et des charcuteries également et des macanek à retrouver sur libanus.com. C'est le site internet, le site marchand en fait, dédié au grand public. Vous avez aimé la...
Macanek, comme on dit.
Macanek.
Macanek et surtout le jus, la mélasse de grenade.
Alors, mais justement, j'allais vous en parler, je trouve ça assez judicieux et même carrément plus que pertinent parce que du coup, il y a un équilibre, une acidité comme ça assez noble qui vient équilibrer le côté saucisse, hein, là même, faut dire les choses comme elles sont. Même si c'est très parfumé, j'aime bien de la saucisse. Et c'est vrai que là, pour le coup,
à la française, quoi,
c'est ça, jus réduit avec cette mélasse de grenade. Là.
Et comme dit Elvira, quand on mange ça, on fait.
Non, mais c'est bien, ça vient, on peut pincer les bajoux là, et c'est très très bon. J'aime bien qu'on me serve le condiment en même temps que la pièce principale.
Je vous en pincerai des bajoux, Ardodaguin. Deux surprises de Carla Rebetz qui viennent directement de It's Time, votre table libanaise. Alors là, pour le coup, des plats qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, autant le houmous, le labné, le moutabal, le baba ganoush, tout ça, on est assez rodé. Autant là, on a affaire à des spécialités peut-être un peu plus ménagères.
Oui, une est ménagère, l'autre est méditerranéenne. Vous savez, j'aime m'inspirer. La première, c'est la moudardara. Et moudardara, ça veut dire elle n'est pas collée, parce que tout le reste, vous le voyez toujours chez nous, c'est des purées, et on les met ensemble. Et la moudardara, c'est des graines de lentilles et de riz qui sont cuisinées. Avec notre spécialité à nous, c'est qu'il y a un petit brin de curcuma. Vous voulez que je donne la recette rapide ?
C'est pour ça d'ailleurs que le riz est coloré.
Et le riz est coloré.
Comment on fait rapidement ?
Comment on fait ? Ben, on fait revenir un peu d'oignon dans une casserole. On met le riz juste après. On le couvre d'un peu d'eau. Juste pour le porter à ébullition et le faire cuire. En parallèle, on prépare des lentilles. Dès qu'elles sont à ébullition, on les met à feu doux. Avant de les mixer avec le riz, on met de la curcuma, du cumin très important quand on met des lentilles et un peu de sel. Et là, je fais revenir les lentilles directement égouttées avec le riz. Et vous avez déjà le mélange. Et pour faire vraiment très goûteux, parce que c'est ça qui fait l'alchimie, je fais avant, dans la poêle, revenir des oignons qui deviennent dorés et croustillants. Et là, je mets des lamelles au-dessus de la moudardara. Et nous, on aime aussi ce côté des radis. On coupe des radis très fins. Les trois goûts ensemble, les saveurs, ça donne une envie et ça donne un voyage. Donc c'est
croquant.
Ça croque. Et puis c'est une recette et ça fait frais. Et c'est une recette de maison, mais qui est un peu sublimée.
Et totalement végétarienne. C'est pour ça, je crois,
vegan,
d'ailleurs.
Vegan, oui.
Carrément vegan, ouais. Vegan. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on la consomme plutôt le vendredi au Liban.
Au Liban, ils aiment beaucoup le mjadra, le mudardara, tout à fait. C'est tout à fait comme ça qu'on
mange. Pour les musulmans, comme les chrétiens d'ailleurs.
Tout le monde, le vendredi, mange ater, on dit, sans viande.
C'est ça.
Mais on se rattrape le week-end.
Et quelle est cette surprise rosée?
Ben, cette surprise rosée, c'est, je dis aussi, c'est un peu mes rencontres aussi. Ça fait plus Cyclades et le Liban. C'est de la feta betterave.
Wow.
Qui sont mixées. Et ça, c'est une recette à faire à la maison avec du yaourt nature.
Là, c'est très, très bon.
Oui. Et des
betteraves cuites.
Des betteraves cuites, bio si possible. De la feta, la moitié betterave, la moitié feta. Je l'ai fait mixer, mais des fois, c'est très dur de faire mixer la betterave avec ça. Et la couleur. La couleur est sublime et ce qui est beau, c'est qu'à la fin, on peut mettre des graines de nigel pour.
C'est ça. Et là, on obtient une pâte à tartiner rose, quasiment fluo.
La betterave, elle vient calmer la morsure du sel de la feta. C'est parfait.
Ah ouais, c'est très, génial. Très voilà bon, une idée ouais. qui va faire des émules chez nos auditeurs. J'en suis sûr. On finit par, chers amis libanais ou franco-libanais, par une surprise sucrée qui va certainement vous parler. Et tout ça nous a été préparé par Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Comment réussir la prouesse d'apporter cette chose dans un parfait état sur le plateau dont on va déguster?
Ben voilà, je vais vous expliquer. À 10 minutes à pied de chez vous, Carla, de chez It's Time, on trouve rue Rambuteau une devanture rouge et blanche sur laquelle on lit Bachir, glace libanaise depuis 1936. Des glaces 100% bio. Qui sont mais une folie délicieuse. Alors avant de vous mettre complètement l'eau à la bouche et qu'on plante nos cuillères dans les pots qui sont devant nous, je vous raconte cette histoire. En 1936, à Bifkaya, un village de montagne à une demi-heure de voiture de Beyrouth, deux frères, Maurice et Édouard Bachir, épousent deux sœurs, Marie-Antoinette et Yvette Béjani. Et à eux quatre, ils commencent à confectionner des glaces dans l'arrière-cour de la maison où ils vivent tous ensemble. Des glaces dans la tradition libanaise, à la fleur d'oranger, au lait, au mastic, vous savez, cette gomme que l'on trouve également beaucoup en Grèce, notamment sur l'île de Chios. L'enseigne se développe un petit peu partout au Liban. Là, je fais un saut dans l'histoire. Bachir compte aujourd'hui une cinquantaine de boutiques au Liban, détenues par les petits-enfants. Chacun a à peu près 10 boutiques à son compte. Et la branche française de la famille Bachir produit ses glaces à Paris dans deux enseignes. Sont trois sœurs et un frère, les petits-enfants d'Edouard Bachir. Et c'est Jessie Bachir elle-même qui est venue nous les apporter tout à l'heure à la maison de la radio. Quand je lui demandais si elle voulait ouvrir d'autres adresses, elle m'a répondu que c'était déjà un énorme travail, le sourcing des produits, en bio exclusivement, la constance de la qualité et du goût. Et quel goût ! Je suis devenue complètement toquée avec ces glaces.
Et quelle texture !
Incroyable ! Trois sorbets, citron, abricot, rose, très délicate la rose, et des glaces, ils ne disent pas crème glacée parce qu'elle ne contient pas de crème, pas d'œuf non plus d'ailleurs, mais du lait, du mastic et un tout petit peu une pointe de salep. C'est cette farine qui est faite à partir de...
Salep.
Oui, nous on dit salep ici.
Leçon de prononciation de l'arabe.
Salep qu'on trouve également en Turquie, qu'on trouve également en Iran, dans des glaces et dans des desserts, qui est une farine très très blanche qui est faite à partir de tubercules d'orchidée. Et par extension, c'est aussi le nom d'une boisson que l'on confectionne avec cette farine. C'est ce mélange-là. Et une technique de foisonnage dont je ne sais absolument rien parce qu'elle est secrète, qui confère à leur glace une texture incroyable, dense, élastique et onctueuse à la fois. Donc en glace, il y a vanille, pistache, amande, chocolat, café, mais surtout mon coup de cœur total, ce que vous avez devant vous.
Avec ces éclats de pistache ?
Voilà, une glace à la hachta. Soit une glace à la crème de lait, fleur d'oranger, mastic, petite pointe de salep, enrobée de pistache concassée. Si c'est pas le paradis, ça je...
Non mais c'est incroyable. Délicat.
Moi, j'adore.
Vous les connaissez bien, ces glaces à la
Moi, en fait, je offre à tous mes clients qui passent à Castille à la fin de repas une glace Hachta associée avec le pistache et le gazelbanat. Gazelbanat, c'est comme le bar à papa libanaise et j'ai mangé beaucoup ça quand j'étais petit.
Oh là là. Les glaces bio de Bachir à retrouver dans une échoppe dont vous nous rappelez l'adresse, Elvira.
58 rue Rambuteau dans le 3e. Il y a une deuxième adresse, rue Tardieu dans le 18e.
Très bien. Merci beaucoup, Elvira. Merci, chers amis.
Ben, merci de nous recevoir.
Merci d'avoir rendu avec nous hommage à la cuisine de vos origines. Il y en a partout sur le plateau d'Ombadé. Vous savez, mais ça, on s'y attendait régalé, avec
très, très bon.
Des amis libanais. Un immense merci. On retrouve vos recettes, car vous nous les avez vraiment toutes données, sur franceinter.fr à la page On va déguster. L'adresse évidemment aussi de vos restaurants, Castille, votre bistrot libanais à l'Angéam, 205 rue Saint-Martin, Paris 3e, et It's Time pour une expérience levantine décontractée, à prix très doux en plus. On l'a pas précisé, mais vous faites vraiment des efforts pour sur l'addition, 44 coquillères, Paris 1er. Et puis, je rappelle juste, Unis pour le Liban, l'opération qui est mise en place par France Inter, le 1er octobre avec des émissions spéciales et un grand concert dont les recettes seront reversées à la Croix-Rouge pour le Liban.
Massalemi.
La semaine prochaine, on se fend la poire. La poire, ce fruit d'automne, est au menu de notre émission. Antoine Gerbel et Éric Morin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.